Il est 9h05, vous écoutez les Aurores Montréal sur les ondes de CIBL. Plus de 1200 demandeurs d'asile ont décroché un emploi au Québec grâce à un projet pilote du SACI, le Centre d'appui aux communautés immigrantes. Elliot Visser, tu nous en dis plus.
Oui Manon, sur 2000 personnes inscrites depuis le lancement du programme, 1225 ont été placées en poste, soit près de la moitié dans les régions. L'initiative, financée par Québec et mandatée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, mise sur l'embauche pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre. On parle avec Anaït Alexayan, directrice générale du CACI. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce projet pilote de service d'aide à l'emploi, comment il s'est mis en place et pourquoi maintenant?
En fait, c'est pas vraiment maintenant. Le projet a été mis en place au mois de septembre 2024. C'est juste un projet pilote, c'était pour tester, pour voir si on pouvait placer en emploi les demandeurs d'asile qui avaient un permis de travail valide et qui étaient sur l'aide sociale, qui résident à Montréal ou à Laval. Donc, l'objectif initial du projet, c'était de les placer en emploi ici à Montréal.
Et pour quelqu'un qui s'inscrit au...
Oui. L'objectif initial, c'est le placement en emploi à Montréal, mais nous avons essayé de relever le défi et essayer de placer dans les régions pour répondre aux besoins économiques des régions. On savait que les entreprises des régions avaient vraiment, vraiment besoin des main d'œuvre. Certaines entreprises étaient obligées à fermer, avaient des grandes difficultés à cause des manques de main d'œuvre. Donc, on a essayé de répondre à leurs besoins. Et voilà le défi relevé.
Pour quelqu'un qui s'inscrit au programme dès la première rencontre jusqu'à la signature d'un contrat, est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroule le processus?
Avec plaisir. Donc, on recrute les demandeurs d'asile. Il faut dire que CACI est un gros organisme qui reçoit déjà beaucoup, beaucoup de personnes immigrantes de tout statut d'immigration, que ce soit résident permanent, travailleur temporaire, étudiant étranger, et beaucoup de demandeurs d'asile. Donc, pendant l'année, on avait reçu, 2024, je pense qu'on était environ à 17 000 demandeurs d'asile. Qu'on intervenait déjà, qu'on essayait déjà de les aider. Donc, au niveau des recrutements, il n'y a pas vraiment de problème, mais il fallait les encadrer, mettre dans un projet. Évidemment, il y a tout un processus d'évaluation de besoins. Si la personne est vraiment motivée, intéressée à travailler, est disponible, évaluer ses compétences, ses connaissances, ses diplômes, son CV, bref, tous les processus en lien avec l'employabilité. On l'inscrit dans un programme, préparation des CV, préparation des entrevues, etc. Donc, les personnes sont très encadrées, mais vous voyez, j'ai fait une histoire longue, beaucoup d'actions, mais tout ça, c'est à l'intérieur des 2 semaines. Il faut le faire. Tout est très, très, très accéléré. Parallèlement, nous travaillons avec des entreprises à la recherche d'un emploi, pas seulement les entreprises, mais aussi avec beaucoup d'associations professionnelles qui nous aident à partager les besoins des entreprises et leurs regroupements, comme dans le domaine du tourisme, hôtellerie, restauration, aussi transformation alimentaire, agroalimentaire, bref. Donc, c'est des entreprises, ils nous font part de leurs besoins en termes des employés. Une fois qu'ils partagent, nous, on fait des sélections des candidats. On fait les sélections, on envoie des CV, les employeurs sélectionnent les candidats qu'ils veulent rencontrer, on organise les entrevues ici, dans nos locaux. Parfois, les entreprises sont en ligne, parfois en présentiel, mais les candidats sont toujours ici, dans nos locaux. Donc, tout est très, très, très encadré. On donne aux entreprises à peu près 10 jours pour à partir du début du processus jusqu'à l'embauche définitive de la personne. Ils ont 3 conditions aussi. Ben, il faut qu'ils respectent nos processus. Il faut qu'il ait un logement à leur disposition avant d'embaucher un demandeur d'asile ou un employé. Et il faut qu'il prenne en charge le transport, le déménagement de la personne. Généralement, on n'a jamais eu une refus de la part d'une entreprise. C'est accepté. Et voilà, de cette façon, on est rendu à 586 placements dans les régions. Le reste, c'est à Montréal, à Laval, Longueuil, ça, on ne comptabilise pas évidemment dans la région. Mais une donnée très, très importante qu'on vient d'avoir semaine passée suite à nos activités de suivi, 94,46% des personnes, donc presque 95% des personnes, sont toujours en région et toujours en emploi.
On parle de plus de 2000 personnes inscrites depuis le lancement et 1225 qui ont trouvé un emploi. Un taux de placement d'un peu plus de 61%. Comment est-ce que vous expliquez ce résultat-là?
Comme je vous ai expliqué, il y a un processus, il y a une rigueur. On respecte les processus qu'on a établis, puis les personnes sont suivies. Il y a une équipe de 7-8 personnes qui travaillent autour du projet. Un parti de l'équipe qui s'occupe des candidats, un parti de l'équipe, surtout particulièrement une personne qui s'occupe des développements des partenariats avec des régions. Et tous nos intervenants en employabilité aussi, ils travaillent directement avec des entreprises. Donc, un, c'est le processus qu'on a mis en place et qu'on respecte d'une manière très, 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 très stricte. Les personnes sont accompagnées. Si on ne les fait pas parachuter dans les régions sans qu'ils connaissent où est-ce qu'ils s'en vont, pourquoi et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Avant de partir, ils ont déjà rencontré l'entreprise. Souvent, les entreprises viennent et font une présentation de leur région, de leur milieu de travail, avec des vidéos ou avec des entretiens. Ils expliquent c'est quoi le milieu de travail. Certaines entreprises même organisent eux-mêmes des visites avant l'embauche dans leur entreprise. Il faut que la personne sache, il faut qu'il choisisse où est-ce qu'il va. Tu sais, c'est un choix, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation à trouver un emploi. C'est assumé, la personne a choisi de partir s'installer en région, et je pense que c'est ça aussi qui nous assure une réussite, puis évidemment aussi le partenariat. On travaille beaucoup, beaucoup en partenariat toute seule. On ne pourrait pas le faire parce que nous, on n'a pas des antennes dans les régions. On travaille avec les organismes partenaires, on travaille avec les associations professionnelles, les municipalités et les entreprises. Tous nos services sont gratuits. Par ailleurs, tout ce qu'on fait, c'est gratuit puisque le projet est financé par le ministère de l'Emploi. Et on donne certains services aussi en ligne. Par exemple, si les personnes ont besoin de renouveler leur permis de travail pendant qu'ils sont en emploi, ben on enlève cette stress et de l'employé et de l'employeur. On le fait nous-mêmes à partir de nos locaux ici en ligne.
Et vous l'avez dit, donc, la plupart des personnes vont en région, mais comment est-ce que vous approchez les entreprises en région et qu'est-ce qu'elles y gagnent, qu'est-ce qu'elles y trouvent dans cette collaboration-là?
Comme j'ai dit, nous avons une personne qui s'occupe des développements des partenariats. Et vous savez, au début du projet, elle a fait beaucoup, beaucoup de démarches pour développer des partenariats, notamment avec des associations professionnelles qui représentaient des employés, mais aussi des entreprises directement. Aujourd'hui, elle a de la misère à répondre aux courriels et aux appels parce que c'est bouche à l'oreille. Vous savez, dans les régions, tout est proche, les gens se connaissent. Alors, ils se parlent entre eux et c'est eux-mêmes qui nous contactent pour demander, collaborer avec eux pour faire des placements en emploi dans leur région, dans leur entreprise. Et ils sont très bien, très, très impliqués, ils collaborent beaucoup et ils font tout ce qui est nécessaire aussi pour garder les candidats dans leur entreprise et dans leur région.
Oui, vous parlez d'un taux de rétention de 72% après 3 mois. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les gens y restent en poste?
En fait, actuellement, le taux de rétention dans les régions, c'est 94%. Ça, les données 72%, c'était au début du projet. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'y plaise. C'est pas tout le monde qui vient des grandes villes. Hein. Il y a des personnes qui viennent des régions. Une fois qu'ils sont choisis à aller s'installer dans la région, ils sont bien là-bas. Puis il faut dire aussi qu'ils ont un logement. Ici à Montréal, ce n'est pas évident de trouver un logement, même s'ils trouvent le coût de loyer n'est pas le même que dans les régions. S'ils sont bien entourés, c'est ce qu'ils cherchent les demandeurs d'asile. Ah, ils étaient sur l'aide sociale à Montréal, au lieu d'être sur l'aide sociale à Montréal, ils sont dans la région, dans le milieu qu'ils aiment, ils ont un emploi, ils sont capables à payer leur loyer, ils ont un appartement. Voilà, la vie est belle, tout va bien pour eux.
Il y a aussi un débat au Québec sur le nombre de demandeurs d'asile qu'on accueille. Comment vous recevez ce débat-là, vous qui voyez plutôt l'apport économique de ces personnes?
Les demandeurs d'asile, actuellement, il y a une diminution importante par ailleurs. Alors, il n'y en a pas tant que ça. C'est sûr qu'en avoir beaucoup trop et ne pas pouvoir les aider à s'intégrer, trouver un logement, inscrire les enfants à l'école, aux garderies, trouver un emploi, c'est pas évident. C'est pas bien ni pour eux ni pour la société. Mais avec les nombres qu'on a actuellement, il y a une diminution importante. Il n'y en a pas autant de demandeurs d'asile qui rentrent au pays. Et les projets pilotes comme celui-là, ça aide un peu à structurer les services, organiser les services et bien aider tout le monde. D'abord les régions, vous savez, tous les problèmes économiques, démographiques de nos régions, ça aide à la fois la société et ça aide à la fois les demandeurs d'asile. Et un très grand pourcentage des demandeurs d'asile, en fait 82%, sont des francophones. Ils n'ont même pas besoin de suivre des cours de français.
Et maintenant qu'on a tous ces résultats en main, moi j'aimerais vous demander qu'est-ce qui s'en vient pour le projet. Est-ce que vous visez à l'élargir ou à le prolonger?
En fait, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de notre bailleur des fonds. À date, ils sont très contents des résultats du projet. Tout fonctionne bien. Un projet qui était supposé être d'un court durée, à peu près des 6 mois, on est rendu, on a déjà une entente jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, je pense que tout se passe bien et j'espère vraiment que ça va continuer.
Et enfin, pour terminer, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce bilan-là après presque 2 ans de projet?
Trouver qu'il y a la possibilité pour les demandeurs d'asile de bien s'intégrer, être très utile pour la société. Et l'autre défi qu'on n'arrivait pas à relever jusqu'à maintenant, c'est des placements dans les régions. La régionalisation des personnes immigrantes. On disait, les régions ne sont pas intéressées ou pas accueillantes, ou les personnes immigrantes ne sont pas intéressées à aller s'installer dans la région parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas leur communauté. En fait, je pense que si on a des programmes structurés, si on fait les choses comme il faut, on s'est fait entourer par des partenariats, on instaure un modèle qui fonctionne. Vous voyez, on a prouvé que ça fonctionne. Et évidemment, on est très, très fiers.
Ben merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anaït Alexayan.
Ça me fait plaisir, merci à vous.